Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Québec Science, Fugue et Protégez-vous. Au programme, voici pourquoi Québec Science n'utilisera pas l'intelligence artificielle pour illustrer ses articles. Taïwan étend le droit à l'adoption aux couples de même sexe. Et survivre à la canicule. Bonne écoute!
Voici pourquoi Québec Science n'utilisera pas l'IA pour illustrer ses articles. Un texte de Mélissa Guilmette, paru le 18 mai 2023 dans le magazine Québec Science. Le magazine garde les deux pieds dans le réel et continuera d'illustrer ses articles avec des photos et images réalisées par des humains. Il en va de même pour la production des textes. En avril, nos collègues de l'émission Découverte ont diffusé un court reportage fascinant sur les difficultés éprouvées par les systèmes d'intelligence artificielle, IA, quand vient le temps de représenter la main humaine. La journaliste Bouchra Watik y expliquait que c'est souvent cette faiblesse qui permet de distinguer les vraies photos des images hyper réalistes générées par des ordinateurs. Le titre du reportage dit tout. Des mains cauchemardesque. Trop de doigts. Des ongles au mauvais endroit. Des proportions ridicules. La faute revient probablement au trop petit nombre de mains dans les jeux de données qui ont nourri les systèmes comme DALL-E, dont nous vous parlions en 2022, lors de leur phase d'apprentissage alors qu'il s'agit d'une partie du corps excessivement complexe à représenter en raison de ses multiples articulations. Qu'à cela ne tienne. Dans quelques mois, les mains cauchemardesques seront sans doute chose du passé. La dernière version de l'algorithme Midjourney maîtrise d'ailleurs déjà mieux cet organe. Bientôt, nous n'y verrons que du feu. Notre directrice artistique ne passera pas pour autant de commandes à un logiciel, contrairement à ce que font d'autres médias, dont le quotidien Blick en Suisse. D'abord, il y a la question des droits d'auteur. Les systèmes n'ont pas payé les artistes et les photographes qui ont réalisé les images qui leur ont tout appris. Ensuite vient l'enjeu éthique. Blick a publié une image générée par intelligence artificielle représentant 5 jeunes hommes pour accompagner un texte sur une fraude bien réelle commise par des vintenaires. Le journal a eu beau inscrire la mention « Photomontage Midjourney », le geste reste dangereux, en plus d'être complètement inutile. Avait-on vraiment besoin d'une représentation fictive du groupe en cause? Alors que les fausses images abondent sur le web. Vous avez vu celle du pape François vêtu d'une doudoune blanche et portant une chaîne au pendentif en croix digne d'un raptor? Celle de l'arrestation nocturne de l'ex-président américain Donald Trump? Québec Science refuse d'entrer dans la danse. Est-ce symbolique? Un peu. Mais le signal est clair. Nous avons les deux pieds dans le réel. À la tentation d'économiser quelques minutes ou quelques dollars grâce aux technologies automatiques, nous répliquons par un engagement à être encore plus présents et présentes sur le terrain, encore plus près de nos sources et du public. L'époque exige cela, comme le dit le sociologue Philippe de Grosbois dans « La collision des récits ». Contre quel danger tentons-nous de nous prémunir? Celui de nourrir ou d'entretenir le flou? Un des plus grands risques liés à l'avènement des nouvelles technologies réside dans le scepticisme généralisé engendré par l'incapacité de distinguer le vrai du faux, écrivait récemment François Charbonneau, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, sur le blog Vaste Programme. Le chercheur va jusqu'à demander que soit instauré un droit au réel, c'est-à-dire une obligation légale de divulgation lorsqu'une image ou une vidéo est truquée. C'est vrai qu'il est plus facile que jamais pour un groupe politique ou économique de nous manipuler. Et à l'inverse, le contexte climatique, social et économique peut donner envie à chacun de choisir sa vérité. Je ne soutiens pas que Québec Science détient la vérité. Ce serait prétentieux. Le travail des journalistes scientifiques est de suivre et d'examiner l'avancement des connaissances en perpétuel mouvement et de rendre le tout digeste pour le grand public. C'est une expertise, pas une religion. Mais tout ce qui loge du côté du faux ne peut avoir sa place dans les médias. Embaucher une Miss Météo virtuelle, comme l'a fait en avril la chaîne suisse romande M le Média, c'est se tirer dans le pied. Cet engagement à ne pas utiliser l'IA dans la production de Québec Science vaut aussi pour nos textes. Il en va d'ailleurs de notre crédibilité. Men's Journal a perdu la face plus tôt cette année en publiant un texte sur la testostérone bourré d'erreurs. Son premier article utilisant ChatGPT. D'autant plus que les têtes dirigeantes des compagnies d'IA ont souvent l'air d'improviser. Midjourney a ainsi permis aux internautes de créer des images des présidents de la Russie et des États-Unis, Vladimir Poutine et Joe Biden, mais pas du président chinois Xi Jinping. On veut juste minimiser le potentiel de controverse, a écrit pour se justifier le PDG David Holtz, selon ce que rapportait le Washington Post. Drôle de logique. La démocratie est fragile. Les temps sont polarisés et polarisants. Jouer avec les limites du vrai et du faux me semble irresponsable dans un contexte d'information. Nous continuerons d'illustrer nos articles avec des photos et des images réalisées par des humains qui ont une éthique claire. Quand les mains cauchemardesques auront disparu pour de bon, que les grands modèles de langage comme ChatGPT ne feront plus d'erreurs grossières, il ne faudra pas perdre de vue les mains invisibles qui ont intérêt à semer le doute ou la pagaille dans nos sociétés. C'était « Voici pourquoi Québec Science n'utilisera pas l'IA pour illustrer ses articles », un texte de Mélissa Guilmette, paru le 18 mai 2023, dans le magazine Québec Science. Taïwan étant le droit à l'adoption aux couples de même sexe. Un texte de l'agence AFP paru le 18 mai 2023 dans le magazine Fugue. Taïwan est à l'avant-garde des droits LGBT en Asie avec la légalisation du mariage des couples de même sexe en 2019, une première dans cette région du monde. Mais les couples de même sexe restaient confrontés à certaines restrictions, notamment l'impossibilité d'adopter des enfants non biologiques ou, pour un conjoint, d'être le parent légal de l'enfant adopté par son partenaire. Mardi, à la veille du 4e anniversaire de la loi sur le mariage pour tous, le Parlement a adopté ce nouvel amendement. Ce dernier assure non seulement la protection des droits des enfants, mais répond également à leur intérêt supérieur, a déclaré la députée Fanyon, enroulée dans un drapeau arc-en-ciel. À l'avenir, les époux et les parents, quel que soit leur sexe et leur orientation sexuelle, pourront bénéficier d'une protection juridique complète, a-t-elle assuré. Cet amendement intervient après qu'un tribunal des affaires familiales de la ville de Kaohsiung, dans le sud du pays, a statué l'an dernier en faveur d'un homosexuel marié pour qu'il puisse adopter l'enfant non biologique de son mari, le premier jugement de ce type. Après 4 années de travail acharné, le Parlement a finalement adopté aujourd'hui le projet de loi sur l'adoption sans lien de sang par les couples de même sexe. C'est félicité l'Alliance taïwanaise pour la promotion des droits à l'union civile dans un communiqué. L'Alliance a également salué la récente reconnaissance en janvier par Taïwan du mariage transnational entre personnes de même sexe. Auparavant, les étrangers n'étaient pas autorisés à épouser leur partenaire taïwanais s'ils venaient de territoires interdisant le mariage entre personnes de même sexe, soit la majeure partie de l'Asie. Depuis la légalisation du mariage entre personnes de même sexe en 2019, au moins 7000 couples de même sexe se sont mariés à Taïwan, selon les données du ministère de l'Intérieur mises à jour pour la dernière fois en 2021. L'Alliance a déclaré mardi qu'elle continuerait à faire pression pour obtenir des droits plus complets pour les couples de même sexe, notamment la reconnaissance du mariage des couples de même sexe entre Taïwanais et Chinois. C'était « Taïwan étend le droit à l'adoption aux couples de même sexe », un texte de l'agence AFP, paru le 18 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Survivre à la canicule, par Mathilde Roy, publié le 16 juin 2019, tiré de la revue Protégez-vous. Déshydratation, coup de chaleur, problèmes cardiovasculaires et respiratoires. En été, la chaleur extrême a des conséquences directes sur la santé des Québécois, sans oublier celle de la planète. Vous n'avez pas de climatiseur? Voici des outils pour abaisser la température de votre maison et vous rafraîchir en période de canicule. L'été dernier, le climatiseur de Denis Boyer a rendu l'âme. Pas de chance pour cet ingénieur montréalais, la saison estivale 2018 a été l'une des plus accablantes des dernières décennies, avec un mois de juillet marqué par des records de chaleur ici et ailleurs dans le monde. C'était tough. On a atteint les 32 degrés Celsius à l'intérieur. Et c'était impossible d'avoir un réparateur avant septembre, soupire le père de 2 fillettes âgées de 3 et 6 ans. Coordonnateur en efficacité énergétique à Éco-Habitation, Denis Boyer a multiplié les tactiques comme installer une toile à l'extérieur, devant sa baie vitrée, pour faire baisser les degrés sur son thermostat. Ça a marché au début, mais la grosse chaleur a fini par s'installer à l'intérieur, admet-il. Chaud devant. La famille Boyer n'est pas la seule à avoir sué à grosses gouttes. Au cours des dernières années, 40 % des Québécois disent avoir été affectés physiquement par la chaleur extrême et 12 % sont allés jusqu'à consulter une infirmière ou un médecin, selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Le meilleur indicateur pour mesurer l'ampleur d'une canicule demeure néanmoins le nombre de décès, et à ce chapitre, l'été 2018 restera dans les annales. La chaleur de juillet a fait environ 90 victimes, soit le pire bilan depuis 2010 au Québec. Les périodes de canicule devraient tripler d'ici 2050, et c'est le scénario optimiste, prévient Pierre Gosselin, médecin conseil à l'INSPQ, et responsable du programme santé pour le consortium Uranos, un organisme sans but lucratif qui étudie l'adaptation au changement climatique. Et comme si ce n'était pas assez, un rapport d'Environnement Canada révélait en avril 2019 que le pays se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Plusieurs professionnels de santé ignorent les conséquences d'un tel réchauffement sur la population. Selon un sondage réalisé en 2015 par l'INSPQ et l'Université Laval, 65 % des omnipraticiens affirmaient que leur formation ne les avait pas préparés au changement climatique. Raison de plus pour mettre toutes les chances de votre côté et sachant comment négocier les périodes de canicule. C'est ce que nous vous proposons. Mort de chaleur. Si, pour plusieurs, temps chaud est synonyme de douche froide répétée et de nuit écourtée, pour d'autres, il trace le chemin vers l'hôpital, voire la morgue. Les aînés risquent davantage de succomber à la chaleur, car ils sont nombreux à souffrir de maladies chroniques comme de diabète ou d'hypertension, en plus de prendre des médicaments. La chaleur agit sur les vaisseaux sanguins et change la réaction de certains médicaments qui peuvent alors contribuer à la déshydratation ou à d'autres déséquilibres physiologiques, explique Pierre Gosselin. Outre les gens âgés, ceux qui travaillent à l'extérieur, les sportifs, les personnes à faible revenu ou à mobilité réduite, les jeunes enfants et les femmes enceintes figurent aussi parmi les plus vulnérables. Cette population s'expose notamment au fameux coup de chaleur, un grave malaise qui peut être fatal s'il n'est pas traité. L'affection se caractérise par une température corporelle élevée, 39,5 degrés Celsius et plus. Une peau sèche, rouge et chaude ou pâle et froide, des étourdissements, un comportement agressif ou bizarre, ainsi qu'un malaise généralisé. Les hospitalisations et les décès sont surtout engendrés par des problèmes cardiovasculaires. La chaleur cause un stress pour le cœur. Une des réponses du corps pour perdre de la chaleur est d'envoyer plus de sang au niveau de la peau, ce qui fait augmenter la fréquence cardiaque. Cela, combiné avec de la déshydratation et une canicule qui s'étire, peut donner un cocktail mortel, explique Daniel Gagnon, chercheur au Centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur au département de pharmacologie et physiologie à l'Université de Montréal. Vivre en ville aussi est plus dangereux que d'habiter loin des gratte-ciels. En cause, les îlots de chaleur, où la température peut être supérieure de 10 Celsius à celle d'un milieu naturel voisin. Ces enclaves sont aussi pauvres en parcs et riches en surfaces minéralisées, asphalte, béton, toits de bitume. À Montréal, en période de canicule, ces îlots augmentent de 20 % les risques de mourir, indique Pierre Gosselin de l'INSPQ. Même les banlieues n'y échappent pas, constate Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en ville. Elle comporte de plus en plus de multiplexes et dans les quartiers récents, les arbres ne sont pas encore déployés. Or, ce sont les meilleurs alliés pour combattre les îlots de chaleur. Climatisation, solution numéro 1. La climatisation est ce qu'il y a de plus efficace pour se rafraîchir. Elle est même incontournable pour les personnes les plus fragiles, estime le docteur Pierre Gosselin de l'INSPQ. Vous n'avez pas la climatisation chez vous? Essayez de passer au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé comme un centre commercial ou une bibliothèque. Le climatiseur limite aussi l'entrée de polluants à l'intérieur, car le smog qui se forme plus rapidement en période caniculaire peut mener à des complications, notamment pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires comme l'asthme. Toutefois, à long terme, la climatisation n'est pas des plus soutenables, nuance Daniel Gagnon, chercheur au Centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur au département de pharmacologie et physiologie à l'Université de Montréal. Elle augmente la température extérieure, contribue à la formation d'îlots de chaleur et au réchauffement climatique. Ventilateur, oui et non. Le ventilateur a un effet net et bénéfique, du moins chez les jeunes, tranche Daniel Gagnon. Pour arriver à ce constat, le chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal a comparé l'efficacité de l'appareil chez des personnes âgées de 65 ans à 80 ans et des jeunes de 18 à 35 ans qui ont été placés dans des conditions de chaleur et d'humidité extrême pendant plusieurs heures. Les deux groupes étaient en santé. L'équipe de Daniel Gagnon, en collaboration avec des chercheurs américains et australiens, a découvert que non seulement le ventilateur n'est pas efficace pour les personnes de l'âge d'or, mais qu'il peut empirer leur situation. Pourquoi? Parce que l'efficacité du ventilateur dépend entièrement de la capacité à se mouiller la peau. Or, en vieillissant, on produit moins de sueur qu'une personne plus jeune, explique le chercheur. Par ailleurs, un ventilateur en marche émet de la chaleur dans la pièce où il fonctionne, et les personnes âgées ne produisent pas suffisamment de sueur pour compenser ce gain. La solution pour elles, s'humidifier la peau avec une débarbouillette d'eau fraîche afin de recréer l'effet de la transpiration, indique le spécialiste. Fenêtre, le nerf de la guerre. Pour conserver une certaine fraîcheur dans la maison, Denis Boyer, coordonnateur en efficacité énergétique à Écohabitation, recommande de bloquer le soleil de l'extérieur avant même que les rayons traversent vos fenêtres. Le bloquer de l'intérieur, à l'aide de rideaux par exemple, fait chauffer tout ce qui voile vos fenêtres, ce qui contribue à faire augmenter la température, explique-t-il. Vous pourriez empêcher le soleil de pénétrer à l'aide d'un auvent, de volets ou d'avancer de toit. Denis Boyer, lui, a simplement suspendu une toile sous le balcon arrière de son voisin du haut pour protéger sa baie vitrée des rayons. À l'intérieur, privilégiez des rideaux blancs et opaques, dit-il, qui attireront moins le soleil. Des stores, toiles et rideaux conçus pour réfléchir les rayons du soleil existent également sur le marché. Il est temps de changer vos fenêtres. Envisagez de choisir un vitrage à faible émissivité, l'OE. Il peut réduire jusqu'à 80% les émissions de chaleur qui pénètrent à l'intérieur en été, note Denis Boyer. Il se révèle aussi avantageux en hiver puisqu'il laisse entrer le soleil tout en procurant une bonne isolation thermique. Sinon, il existe des pellicules qui se collent sur les fenêtres, seul désavantage du lot E. Vous perdrez en luminosité. À privilégier donc pour certaines fenêtres de la maison seulement, indique l'ingénieur de formation. Toit. Le blanc est le nouveau noir. Lors d'une journée ensoleillée de 26 degrés Celsius, la température d'un toit plat en asphalte et gravier noir peut atteindre 80 degrés Celsius contre 35 pour un toit blanc et 29 pour un toit végétalisé, indique Christian Savard, directeur de l'organisme Vivre en ville. Opter pour l'une de ces deux dernières options aura inévitablement un effet sur la température intérieure de l'immeuble et, si tout le monde s'y met, le quartier au complet en bénéficiera. D'ailleurs, dans certains arrondissements montréalais, comme Rosemont-la-Petite-Patrie, seuls les matériaux blancs, membranes ou gravier ou l'option végétale sont autorisés lors de la réfection d'un toit. À noter que la membrane coûte généralement plus cher que le gravier blanc, mais elle a la réputation de durer plus longtemps. Mieux vaut ne pas consommer des boissons alcoolisées qui peuvent aggraver la déshydratation. Faire des efforts physiques, comme pratiquer un sport, car vous vous exposez alors à un coup de chaleur qui peut entraîner la mort s'il n'est pas traité. Invitez tous vos amis à la maison. Chaque personne émet 100 watts de chaleur, explique Denis Boyer, coordonnateur en efficacité énergétique à Éco et à Habitation. 15 personnes dans une salle diffusent autant de chaleur qu'un calorifère qui fonctionne à plein régime. Utilisez votre four ou sa fonction auto-nettoyante dont la chaleur se diffusera dans le reste de la maison. Si vous tenez à manger chaud, préférez les plats préparés à la mijoteuse, laquelle dégage moins de chaleur que le four. Ouvrir vos fenêtres lorsqu'il fait très chaud et humide et laisser les lumières allumées, surtout si des ampoules à incandescence ou halogène plutôt que des fluos compacts ou à DEL équipent vos luminaires. Mieux vaut vous hydrater suffisamment Les autorités québécoises recommandent aux adultes de boire de 6 à 8 verres d'eau par jour, d'offrir de l'eau toutes les 20 minutes aux bébés et aux enfants et de donner le sein plus souvent aux bébés allaités. Utilisez un ventilateur. Humidifiez votre peau si vous transpirez peu, car l'efficacité de cet appareil dépend entièrement de votre capacité à vous mouiller la peau. Prendre une douche froide avant de vous coucher. Dormir avec les cheveux mouillés ou vous mettre une débarbouillette mouillée sur le front et autour du cou. Utiliser des draps et des vêtements de nuit légers faits de matières naturelles comme le coton ou le bambou, car ce sont des tissus qui respirent. Ouvrir les fenêtres à des moments stratégiques de la journée, soit tôt le matin ou tard le soir, pour renouveler l'air et rafraîchir la pièce. Votre ami, l'arbre. Les arbres, à grand déploiement, peuvent réduire la chaleur de 5 à 12 degrés Celsius par rapport aux zones asphaltées à proximité, dit Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en Ville. Vous pourriez planter près de votre maison un arbre au feuillage abondant, comme un érable, un bouleau noir ou un micocoulier. Mais avant, vérifiez les règlements municipaux et confirmez votre choix auprès d'Hydro-Québec. Survivre à la canicule. C'était un texte par Mathilde Roy, publié le 16 juin 2019 dans la revue Protégez-vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Serge Hamelin à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.